Nous sommes en compagnie d'André Lacroix, traducteur de « Mon combat pour un Tibet moderne, récit de vie de Tashi Tsering » par Melvin Goldstein, William Zibenchou et Tashi Tsering. C'est paru aux éditions Golias. Voici pour la première fois en français la vie étonnante du Tibétain Tashi Tsering, né en 1929. Cette autobiographie, qui se lit comme un roman, nous emmène sur les traces d'un petit paysan analphabète, habité d'un optimisme à toute épreuve et d'une inextinguible soif d'apprendre qui le mènera en Inde et aux États-Unis, puis dans les prisons de la révolution culturelle chinoise. À 83 ans, et avec l'espoir toujours chevillé au corps, il lutte pour la démocratisation de l'enseignement au Tibet et se passionne pour la transmission du tibétain, du chinois et de l'anglais. Alors André Lacroix, comment avez-vous eu connaissance de cet ouvrage publié en anglais ?
Oh ben, c'est une assez longue histoire. En fait, tout commence par... c'est ma fille qui a appris le chinois quand elle était encore toute jeune. Et c'est grâce à elle que j'ai été appelé à m'intéresser à la Chine. Et grâce à elle que nous avons fait, ma femme et moi, plusieurs voyages en Chine, dont notamment... en 1999, un voyage le long de la région autonome du Tibet, à travers le Gansu, le Qinghai, le Sichuan et le Yunnan, des régions peuplées d'une importante minorité tibétaine. Alors, à l'époque, moi, je connaissais pas du tout le problème tibétain et je n'avais comme guide que le Lonely Planet qui parlait de génocide culturel. Et moi, ça m'a interpellé parce que la première chose que j'ai vue, que j'ai constatée, c'est l'abondance des monastères, l'omniprésence des moines, la vitalité des coutumes locales, des manifestations locales. Bon, j'ai commencé à me poser quelques questions. Et puis après ce voyage, je me suis informé davantage. J'ai lu divers ouvrages dans lesquels je me suis aperçu que le bouddhisme tibétain n'était pas seulement une philosophie de la pacification intérieure, mais qu'il comportait également toute une part de religion prosélyte, y compris d'appel à la guerre sainte. Je me suis aperçu aussi que le Dalai Lama, en réalité, ne correspondait pas tout à fait à l'image d'Épinal que nous avions en Occident. Et ce qui m'a encore... déterminé encore plus à m'intéresser au problème, c'est, si vous vous souvenez bien, lorsque, au printemps 2008, à l'occasion du passage de la flamme olympique à Paris, il y a eu cette espèce d'hystérie collective qui s'est emparée de toute la classe politique française, de la gauche à la droite, en passant par les écolos, avec quand même la notable exception de Jean-Luc Mélenchon, pour se dresser contre un seul homme, contre l'affreuse Chine. Alors, moi, ça m'a interpellé. Alors, il se fait que fin de cette année, un ami m'a passé une biographie en anglais d'un certain Tashi Tsering qui s'appelait The Struggle for a Modern Tibet, The Autobiography of Tashi Tsering. J'ai lu ce bouquin avec passion et je me suis vraiment étonné qu'il n'ait pas encore été traduit en français. Alors, je m'y suis mis et voilà, le résultat, c'est la parution en octobre 2010 de ce bouquin aux éditions Golias.
C'est une histoire tout à fait intéressante, mais c'est un engagement personnel finalement, la traduction de ce livre.
Oui, enfin, j'ai trouvé que c'était tellement incompréhensible qu'une figure de ce type-là, qui a la dimension d'être fait docteur honoris causa de toutes nos universités, soit complètement ignorée dans le monde francophone. Et alors je pourrais vous parler longuement de cette espèce de parcours du combattant qu'il m'a été nécessaire pour trouver un éditeur. Et tellement l'intelligentsia est puissante et n'accepte pas que sur le Tibet puisse paraître un ouvrage qui ne soit pas tout à fait dans la ligne du Dalai Lama. Tashi Tsering est respectueux du Dalai Lama, il l'a rencontré, d'ailleurs il le raconte dans ses mémoires, mais il n'en partage pas les idées politiques. Et rien que ce fait-là, je crois, suffit à ce que son message soit inaudible dans l'intelligentsia française.
Oui, il est tout à fait politiquement incorrect.
Oui, on peut le dire, oui.
Alors, l'intelligentsia française, ok, mais en Belgique, alors ?
En Belgique, bon, c'est le même problème, sauf que j'avais trouvé un petit éditeur qui acceptait de publier la traduction, mais ça devait être remis au calende grec parce que pour des raisons financières, mais sinon, c'est le même problème partout. Et alors, moi, ce qui m'a spécialement... interloqué, oui, on peut le dire, c'est que deux maisons d'édition françaises de réputation pourtant alternative, qui avaient manifesté leur grand intérêt pour le projet, se sont l'une après l'autre dégonflées après m'avoir laissé lanterner pendant des mois.
Et si on les citait ?
Oui, puisqu'on est dans le politiquement incorrect, allons-y gaiement, c'est La Découverte. Et puis les éditions Autrement. Et La Découverte a eu l'honnêteté de m'écrire pourquoi elle le refusait. Finalement, je cite en toutes lettres le message écrit de l'éditrice. Finalement, la balance a penché en défaveur de la publication, notamment en termes de prise de risque politique et du fait que c'est un champ dans lequel La Découverte a probablement trop peu de connaissances pour prendre part à un débat qui s'annonçait pour le moins passionné.
Ah ben voilà, qui est dit.
Alors que c'est renversant, parce que cet ouvrage n'a rien de polémique, c'est un récit de vie, et d'ailleurs un récit de vie, je dirais, imparable, dans la mesure où le Tachi Tsering a, s'il a souffert des humiliations du temps de l'Ancien Régime sous la féodalité théocratique, il en a souffert également pas mal du fait des geôles communistes où il a séjourné pendant des années. Donc c'est un témoignage historique irréfutable. Bon, et on n'en veut pas parce que ça ne donne pas des exilés tibétains l'image idéale qu'on s'est forgée ici en Occident.
C'est sûr, il n'est pas Dharamsala, donc ouais. C'est pas ce qu'on attend. Alors on va en revenir au livre proprement dit de Tachi Tsering, qu'on a maintenant la chance de pouvoir lire en français grâce à vous. Ce livre commence par une séance de châtiment corporel. Ça commence fort.
Oui, je dirais même qu'avant... Ah oui, c'est le prologue.
C'est quand il rêve.
Oui, c'est ça. Donc c'est une espèce de le contraire d'un flashback. Oui, c'est ça. Oui. Ben oui, c'est ce que Tachi Tsering dit, que l'école de danse où il était admis tout gamin a été sa première expérience de la cruauté. L'entraînement Gadrukpa, donc c'est l'école de danse, fut ma première révélation de la dureté et de la cruauté qui imprégnait notre société traditionnelle, et cela fit sur moi une forte impression négative. Et de fait, il en porte mm-hmm. encore les coups aujourd'hui, les traces de coups qu'il a reçues à ce moment-là, physiquement. Oui.
Oui, parce qu'il est fouetté.
Il est fouetté.
Le Gadrukpa, oui. Pour les non-initiés, c'est quoi ?
C'est une école de danse pour laquelle Tachi Tsering a été recruté quand il avait 10 ans. Lui, c'est un petit paysan analphabète, mais tout petit, il avait la volonté d'apprendre à lire et à écrire, mais comme il n'y avait pas d'école primaire dans son patelin, pour lui, c'était une chance extraordinaire que des émissaires du Dalai Lama recrutaient dans son canton des petits gamins de 10 ans pour venir devenir des danseurs dans la troupe de danse sacrée du Dalai Lama. Alors, au désespoir de ses parents, parce qu'en fait, ça consistait en un impôt humain, et au sanglot de sa mère, malgré ça, lui, le petit gamin, était tout heureux de pouvoir aller jusqu'à Lhasa, c'était pour lui une chance d'ouverture culturelle qu'il n'aurait jamais eu autrement.
Il était déjà très très curieux du monde.
C'était un petit bonhomme, je crois que c'est un petit gamin extraordinaire, parce qu'il a eu une enfance heureuse, il raconte comment il joue avec ses camarades, mm-hmm. etc., qu'il va à la pêche, etc.
Il garde les animaux, etc.
Mais il y avait toujours en lui ce besoin d'apprendre à lire et à écrire. Or, il sentait bien que dans la société dans laquelle il vivait, c'était pour lui impossible.
Et ce besoin lui fera quitter sa famille et ses deux femmes à un moment. Hein.
Oui, oui, oui.
C'est une vie bien remplie.
C'est vrai que...
Ces danseurs, c'était donc des danses rituelles.
Des danses rituelles, oui. Mais pour l'initiation desquelles, la pédagogie était vraiment, si on peut parler de pédagogie, était vraiment...
C'était minimum.
Élémentaire. C'était surtout les coups, les humiliations, la délation, enfin, vraiment tout ce qu'on peut...
Et d'ailleurs, ouais. Il dit à un moment, à propos de son recrutement, c'était comme entrer dans une maison de redressement ou une prison.
Exactement.
Donc ça laisse imaginer le lieu. Alors vous avez parlé de cet impôt, c'est intéressant, parce qu'en recrutant cet enfant, donc ses parents ne payaient plus l'impôt. Ils étaient exonérés d'impôts. Par contre, le reste de l'impôt était réparti sur tout le village.
Ce qui a d'ailleurs provoqué une... la jalousie de la part des autres villageois. Et ça explique en partie aussi un épisode, mais ça, je ne sais pas si on va entrer dans les détails, mais digne d'un western, où son père ayant été battu par un rival de la famille qui est jaloux du fait que ses parents ne payaient plus d'impôts, Tashi Tsering s'est fait vengeance lui-même avec des scènes qui sont véritablement dignes d'un western, une rossée d'envergure dans un canyon. En fait, tout y est pour un vrai western. Oui.
On pourrait faire un bon film,
oui.
Effectivement.
Ah, oui.
Alors, pendant qu'il est apprenti, en quelque sorte, dans cette troupe de danseurs, il est traité comme un esclave par la famille qu'il héberge.
Oui. Et d'ailleurs, il va... le traitement qu'il subit, lui, qui est un préadolescent à l'époque, est tellement dur qu'il va faire 3 tentatives de fugue. Une dans un monastère du centre de Lhasa, puis une deuxième au monastère de Drepung, à l'ouest de Lhasa. Mais chaque fois, il est repris par le père de sa famille d'accueil, entre guillemets. Et alors, la troisième fois, il décide, cette fois-ci, je dois quitter Lhasa, aller beaucoup plus loin, et il veut aller jusqu'en Inde. Mais là, il va jusqu'à Gyantse. Imaginez ce garçon qui, à cette époque, a 14 ans, qui tout seul, sans un sou, franchit le fleuve, le Yarlung, c'est le nom tibétain des Brahmapoutres. Et puis après, il franchit le col de Gampala. Et puis finalement, il trouve une famille là-bas où il est hébergé. Mais il se rend bien compte qu'il est coincé là. Et alors, sur ces entrefaites, son oncle vient le rechercher, le ramener à bon port. Et alors... son père, grâce à beaucoup de diplomatie et beaucoup de cadeaux, réussit à réintégrer Tashi Tsering dans la troupe de danseurs.
Alors, on peut dire que le Tibet était le dernier pays féodaliste du monde, car les paysans étaient soumis à un gouvernement exercé par une aristocratie dont les privilèges étaient héréditaires.
Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, oui. Et je crois que c'est la description de cette situation qui ne plaît pas à d'aucuns, qui imagine... qui fantasme sur le Tibet encore maintenant, le Dalai Lama parle de pays où nous étions heureux.
Je trouve que lui était heureux.
C'est indécent parce que, bon, d'abord, il oublie que sa mère a eu 16 enfants et qu'elle en a perdu une bonne moitié. Et puis, lui était du beau côté de la barrière, mais les restes, c'était vraiment... la mortalité infantile était effrayante, l'analphabétisme était généralisé, il y avait même des punitions corporelles très dures pour les esclaves fugitifs. Enfin, bon... Mais on ne peut pas dire ces choses-là aujourd'hui.
C'était un état théocratique.
Tout à fait.
D'ailleurs, puisqu'on parle du Dalai Lama, on peut citer ce que disait Gyalola, le frère du Dalai Lama, qu'on trouve dans le livre que vous avez traduit. Dans la société tibétaine, il n'y a que 2 catégories de gens, celles qui mangent de la tsampa et celles qui mangent de la merde.
Ouais. Voilà, c'est une phrase qui... probablement lui a échappé, parce que c'est tellement, à la limite, c'est presque un lapsus révélateur de sa part, puisqu'il était quand même représentant des nobles, des aristocrates qui cultivaient des rêves revanchards de reconquête du Tibet. Mais c'est terrible comme jugement sur la société. Oui.
Savoir lire et écrire était réservé aux riches, les moines et les fonctionnaires, parce qu'il n'y avait pas d'école pour les autres. Et c'est justement ça qui révolte Tashi Tsering.
Ah oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce sentiment de scandale a guidé toute sa vie. Et au lieu que ça ne tourne à rien, il en a fait quelque chose de positif, au point maintenant d'être le créateur de centaines d'écoles sur le haut plateau. C'est vraiment une trajectoire, je trouve, extraordinaire.
Oui. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est la filiation à la tibétaine, qui est un peu surprenante. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 pères et sans savoir quel est son père biologique.
Oui. Ça, c'est intéressant, parce que non seulement ce livre est un témoignage historique de première main, mais c'est aussi un témoignage, je dirais, sociologique, dans la mesure où, bon, bien sûr, on a tous entendu parler de sociétés polyandriques. Comment est-ce qu'on dit? Oui, c'est ça.
Je crois que c'est ça.
Oui, oui. Mais autre chose est de voir raconter par quelqu'un qui dit, bon, en présentant sa famille, il dit oui, il présente toute sa famille, nous étions 10, et puis j'avais 2 pères. un père et qui se partage, deux frères qui se partageaient la même femme. Et c'est seulement en voyageant en Inde et aux États-Unis que je me suis aperçu que c'était incongru, mais lui trouvait ça tout à fait
normal.
Oui,
il avait l'air très à l'aise avec ça.
Tout à fait à l'aise. Oui.
C'est assez impressionnant. Alors, les mœurs sexuelles des moines aussi, tout à fait officialisées, sont un peu bizarres pour un regard occidental.
Ben oui, oui, le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que quand il était donc au service au Gadrukpa, on lui a demandé s'il voulait se mettre au service d'un moine, et lui savait très bien qu'en acceptant ça, il acceptait aussi d'en devenir le partenaire sexuel.
Et ce moine était plus âgé, et avait été son supérieur.
Oui, mais
tout était normal.
Mais oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que il ne se plaint pas trop finalement de ça.
Il faut qu'il quand même. Il dit que c'était une période heureuse de sa vie, d'ailleurs.
Mais oui, parce que ce moine, bien qu'étant son partenaire sexuel plus âgé, était quand même un être sensible et délicat qui était soucieux de son avancement intellectuel.
Qui l'a protégé.
Oui, mais autre chose, il y a plus grave encore que ça, ce sont les moines voyous du monastère de Serra, qui constituent de véritables escouades de prédateurs qui se disputent pour savoir qui va être le meilleur prédateur de jeunes garçons.
On dirait les Goliards du Moyen-Âge occidental.
Oui.
En Bavière.
Oui, oui.
Alors, bon, on a parlé des coups de fouet tout à l'heure, on ne va pas insister. Alors, on va passer à l'aspect politique des choses. En 1951...
Oui.
Il évoque l'accord en 17 points qui a été signé à Pékin, et du coup ça le fait réfléchir et il se dit, tiens, moi qui rêve de changement, est-ce que les Chinois vont pas m'apporter du changement?
Oui. Ben oui, ça a été pour lui une prise de conscience qu'il y avait un autre mode de vie possible. Il voit les Chinois, les soldats chinois qui arrivent, qui construisent des routes, des écoles, qui ne voleraient pas une aiguille aux habitants. Et lui, il était à ce moment-là fonctionnaire au trésor du Potala, et se rend compte que la société dans laquelle il travaille, une espèce d'administration des finances, si vous voulez, était une société complètement corrompue. Avec les pots de vin étaient monnaie courante. Il se dit, mais il y a une autre manière de vivre. Et alors, il est fasciné par la discipline et aussi l'honnêteté des premiers soldats chinois qui arrivent à Lhasa.
D'ailleurs, c'est à cette époque qu'il apprend les mots socialisme, capitalisme, communisme.
C'est assez amusant parce qu'il dit, bon, vous ne savez même pas ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, les Chinois ont dû trouver comment traduire les concepts du marxisme en tibétain. C'est assez bancal comme traduction, mais en fait, c'est plutôt comique, quoi. Mais avec le ressentiment qu'il a contre l'ancienne société tibétaine, on comprend qu'il a été séduit par autre chose.
Bien sûr.
Oui.
Bon, après, il déchantera, mais ça, c'est autre chose.
Oui.
D'ailleurs, il décrit la période entre 1951 et 1959, jusqu'à l'insurrection de Lhasa, comme une lune de miel.
Oui, oui.
Ça, c'est sûr qu'on ne s'y attend pas.
On ne s'y attend pas, mais c'est vrai que maintenant, les études qui paraissent aujourd'hui... sont unanimes pour montrer qu'au début, en tout cas, les relations entre l'armée populaire de libération et les habitants se passaient au mieux. Mais il a fallu qu'il y ait des émeutes qui se créent dans le Sichuan voisin, lorsque, en 1956, si je me souviens bien, Pékin a imposé une réforme agraire, et alors à ce moment-là, les possédants et les aristocrates et les moines tibétains des Sichuan sont passés au Tibet même, et là-bas, ils ont excité la population contre les Chinois. Mais il y a eu pendant, disons, 7-8 ans, une époque de calme et de bonne entente avec la population. Mais alors, évidemment, les possédants se sont rendus compte de sa prestige. La réforme agraire qui a été faite au Sichuan, elle pourrait nous arriver ici aussi. Et puis les moines ont dit, oui, si les affreux communistes viennent établir des écoles laïques chez nous, ça n'est fini de notre pouvoir sur les je dirais pas les petites têtes blondes parce qu'elles ne sont pas blondes, mais en fait sur les petits jeunes. Et alors tout ça a fait qu'il y a eu une insurrection en 1959 au cours de laquelle le Dalai Lama est parti en exil.
Donc finalement, il n'y a que le peuple qui, lui, n'avait pas le pouvoir, qui avait peut-être un espoir
dans
les Chinois.
Ben oui, mais...
Parce qu'eux, ils n'avaient rien à perdre.
Ben, c'est ça, mais un petit peu comme les paysans pendant la Révolution française. Bon, il y en a aussi qui sont restés fidèles à leur seigneur et aux moines. Mais la plupart voyaient quand même dans l'apport chinois la possibilité, la chicnote qui leur permettait de quitter l'ancien régime et d'accéder à un autre type de société.
Alors en 1957, Tashi réalise un rêve. Il part en Inde à Kalimpong pour apprendre l'anglais. Alors ça, c'est le début de la grande aventure.
C'est le début de la grande aventure. Mais d'abord, il est en Inde donc pour apprendre l'anglais lorsqu'éclate le soulèvement de Lhasa en 1959. Et là, sa conscience politique va encore monter d'un cran dans la mesure où, il est affecté. Il reçoit une mission de confiance assez extraordinaire. On lui demande, de surveiller le trésor du Potala que le pouvoir tibétain, en 1950 déjà, a mis à l'abri, a planqué dans les caves des Maharajas du Sikkim. Donc il faut se dire que c'est une évasion fiscale, une méga évasion fiscale. On peut se demander d'ailleurs si se sont inspirés, ou bien s'ils ont trouvé ça tout seul, ou bien s'ils se sont inspirés de Chiang Kai-shek, qui, lorsqu'il a quitté la Chine, a emporté tous les trésors de l'Inde, tous les trésors d'or et les valeurs culturelles à Taïwan. Bon, donc ça, c'est première chose. Tashi Tsering est affecté à la garde de ce trésor pendant un mois dans une grande pièce à Calcutta. Deuxième chose qui a dû quand même le marquer, c'est que lui, ayant perdu toutes ses économies, il se fait qu'il demande au frère aîné du Dalai Lama de bien vouloir avancer de l'argent pour ses études. Et le frère aîné du Dalai Lama lui dit, bon, il accepte, mais à condition qu'il abandonne ses études et qu'il se mette à son service à lui, ce qui rend Tashi Tsering furieux. Et il aurait encore été plus furieux s'il avait su ce qu'il a appris plus tard, à savoir que Gyalola, donc le frère aîné du Dalai Lama, était largement subventionné dès l'époque par la CIA. Et troisième étape en Inde de sa prise de conscience, c'est que à un moment donné, à Kalimpong, donc qui est la capitale du Sikkim, les notables tibétains se réunissent et Tashi Tsering, qui est à ce moment le bras droit du frère aîné du Dalai Lama, va aussi pour entrer dans cette salle et il doit rester à la porte. Donc c'est une humiliation qui va garder sur l'estomac pendant toute sa vie.
Oui, c'est ça. Ça lui rappelle qu'il n'est pas de ce monde-là.
C'est ça.
À propos de CIA, d'ailleurs, on dit qu'aujourd'hui, le Dalai Lama actuel serait un agent de la CIA. Mais bon, après... Son frère l'est.
Oui, mais enfin, ce qui est vrai, c'est que ça, c'est incontestable maintenant que les archives américaines notamment sont publiées au jour le jour. Ce qui est certain, c'est que dès le début, les aristocrates tibétains et les moines tibétains ont reçu un large subventionnement de la part de la CIA. Et ce subventionnement continue maintenant, mais plus par la CIA, mais par une branche un peu plus politiquement correcte, qui est le NED, New Endowment for Democracy. Mais enfin, c'est la même chose. Donc, il reste largement subventionné par... Et alors, il faut dire aussi qu'il y a, dans le monde entier, il y a une nébuleuse d'organismes qui collectent des fonds. Par exemple, l'International Campaign for Tibet, qui est basée aux États-Unis, qui est financée par des fonds privés et publics américains, qui affiche 400 000 membres et qui a des succursales dans le monde entier, est très actif. C'est vrai que On ne comprend pas la situation actuelle du Tibet du Tibet dans le monde occidental si on oublie qu'il y a un lobby des indépendantistes qui est très puissant. On connaît le lobby juif, toute proportion gardée, le lobby des indépendantistes tibétains est aussi très puissant dans notre monde.
Alors à propos des États-Unis, c'est en 1960 que l'ancien berger tibétain s'envole pour New York et Seattle.
Oui, il faut lire ça aussi, c'est plein d'humour quand il arrive au sommet de l'Empire State Building et alors il admire ça, mais il a une petite remarque de bon nationaliste tibétain. dit, mais nous, nous avons quand même le potala et nous n'avions pas toute la technologie pour le construire. Donc, c'est amusant. Alors, arrivé aux États-Unis, là, paradoxalement, il arrive aux États-Unis lorsque l'hystérie du McCarthyisme est à peine terminée, et c'est aux États-Unis qu'il va affiner sa conscience politique, qu'il va apprendre à connaître Marx, Lénine et Mao Tse-tung aux États-Unis. Et là, il va se rendre compte, et pour lui, ça va être un éblouissement, il va se rendre compte que les démocraties, les pays occidentaux modernes ont eux aussi connu une période de féodale théocratique. Et il se dit, mais pour eux en sont sortis, pourquoi pas nous? Et c'est ce qui va le motiver. Alors qu'il est bien intégré dans la communauté des exilés tibétains à Seattle et qu'il est bien intégré, il a beaucoup d'amis américains, il va décider, il va prendre, je crois, la décision la plus extraordinaire de toute sa vie. Il va décider, alors que tout le monde dit « mais tu es un fou », il va décider de revenir au Tibet pour se remettre au service de son peuple.
Alors, il faut dire qu'il n'est pas très séduit par le matérialisme américain.
Il n'est pas très séduit par le matérialisme américain, mais d'autre part, il est séduit par la liberté. Il assiste notamment à la campagne électorale entre Nixon et Kennedy. Il voit que les cours sont très participatifs, les cours universitaires. Et il est à la fois, il est quand même un peu séduit, même s'il ne partage pas, s'il se rend bien compte que le matérialisme américain, c'est pas sa tasse de thé. Et d'ailleurs, il va écrire sur le bateau, d'ailleurs, il va écrire une petite plaquette à ses critiques sur la démocratie américaine.
En tout cas, il a travaillé très très dur à l'université pour remettre à niveau.
Parce qu'au début, il dit que ses copies revenaient avec plus de rouge que de. Et il y avait tellement de corrections qu'il n'arrivait pas. Il a travaillé comme une bête parce qu'il s'est mis très tard à l'étude.
Et il en avait les capacités.
Il en avait les capacités, mais il a souffert. Hein, il a souffert.
Alors donc, obsédé par l'idée de faire quelque chose pour son peuple, comme on l'a dit tout à l'heure, il quitte l'Amérique en 64 et retourne au Tibet. Alors on peut dire que c'était vraiment pas le moment, 64.
Ben non, mais sa décision était prise. Et lors d'une rencontre dramatique qu'il a eue avec le frère aîné du Dalai Lama, qu'il l'a retrouvé à San Francisco, une discussion qui a duré pendant 2 jours, il a pu affiner sa décision. Et alors, ce qu'il a... Il est resté intraitable malgré des promesses de Gyalola de le nommer directeur de la maison culturelle tibétaine à New York et une autre en Inde, avec un emploi bien rémunéré. Et il a résisté à ce chantage et d'une manière remarquable. Il a décidé, non, j'ai pris une bonne décision et je m'en tiens là.
Voilà, ce que c'est qu'une bonne décision, après ça se discute. Alors, on a l'impression qu'il était assez jeune et assez naïf pour croire que le communisme chinois aurait besoin d'un jeune Tibétain éduqué aux États-Unis pour construire un Tibet moderne.
Ben, il était plus si jeune que ça, hein, mais
il est. En tout cas, il était très naïf.
Mais oui, il était naïf. Il a été. C'est vrai qu'il était. Mais il était convaincu que. Il se rendait bien compte que tout ça n'allait pas aller. Mais. Il avait foi dans l'idéal communiste.
Et il en avait tellement foi, d'ailleurs, qu'il rêvait d'être garde rouge quand il est rentré.
Et oui, même il a participé, oui.
Mais il ne l'a jamais été. Il a toujours été exclu de ce.
Il était probablement qu'il était considéré quand même un tout petit peu comme suspect quand même. Comme on savait qu'il était plus âgé que les autres et qu'il avait voyagé ailleurs. Mais il n'empêche qu'il était convaincu de l'idéal communiste. Et c'est seulement petit à petit qu'il s'est rendu compte des excès du maoïsme.
Oui, et puis il s'est rendu compte très vite qu'il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait.
Ah non, bien sûr, ça, non.
Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, tout ça finira très très mal pendant la révolution culturelle, parce que du coup, il ira en prison plusieurs années.
C'est assez terrible, parce que alors que lui se pensait un communiste convaincu, sans aucun préavis ni avertissement, un beau jour de 87, si je me souviens, de 70, il est tiré de sa classe et accusé d'être un contre-révolutionnaire. et il va faire, sans ce qui est de le moindre procès équitable, il va être victime d'humiliation collective, il va faire 3 ans et demi de prison, quand il est sorti de prison, non seulement il va être libéré, mais formellement libéré, parce qu'il va rester suspect pendant encore 5 longues années, et c'est seulement avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping qu'il va pouvoir être complètement réhabilité.
Oui, alors c'est en 78 qu'il est réhabilité, mais tout de même après une aventure rocambolesque et une énième séance d'autocritique.
Ah oui, oui, oui. Oui,
parce qu'il fuit la ville où il est, il va à Pékin, il prend le train.
Oui.
Il est poursuivi.
Il est poursuivi, oui, parce qu'il a quitté sans la permission de ce directeur. Il avait appris quand même que Deng Xiaoping recommandait à ceux qui avaient souffert de la révolution culturelle à venir défendre leur cause devant le Conseil d'État à Pékin. Alors lui, sachant bien que le directeur de l'école où il était affecté comme ouvrier et lieur n'aurait jamais accepté qu'il parte, il faut se compagner à tout le monde, et il fonce dans un train, et un peu miraculeusement il arrive en échappant à tous les contrôles, et il obtient effectivement sa réhabilitation. Et puis alors, quand il revient dans son école réhabilité, mais il doit quand même passer devant le directeur de son école, qui lui dit, mais enfin vous auriez dû me demander la permission. Et il répond, bah, si je vous demandais la permission, vous ne me l'auriez pas accordé. Et c'est la même réponse que celle qu'il avait faite au directeur de Gardrukpa quand Tashi Tsering, sans lui avoir demandé la permission, avait postulé pour obtenir un emploi au trésor du Potala.
Mais on sent vraiment le poids terrible de la bureaucratie.
Ah oui, oui.
Dans toute sa vie, il en est victime, une absurdité qui traverse tout le livre.
Ben oui, mais oui, ça c'est la réalité, oui, oui.
Alors, en 1980, enfin dans les années 80, il se met à rédiger un dictionnaire tibétain-chinois-anglais. Ça, c'est des années importantes pour lui.
C'est des années importantes parce qu'il s'est rendu compte, à partir de sa propre expérience, combien il était difficile d'apprendre l'anglais pour un tibétain. Et donc, il va se mettre... Mais c'est une entreprise, enfin, si je peux te parler pour un tibétain, c'est un travail de bénédictin, parce qu'il travaille...
En tout cas, de moine tibétain.
Il travaille au début avec un seul collaborateur, sans l'apport de la moindre technologie, et il rédige à la main des milliers et des milliers de fiches, au point que ça va menacer très fort sa santé, et ça va également... poser des questions, des problèmes dans son ménage, parce qu'entre-temps, il a pu épouser...
Enfin se marier.
A épousé sa vieille amie, une amie d'enfance avec laquelle il forme actuellement un couple assez touchant.
Oui. Alors que dit-il aujourd'hui quand il voit les menaces qui pèsent sur la langue tibétaine, dont il est un ardent défenseur, alors qu'en 1984, la langue tibétaine était reconnue comme première langue?
Son combat, c'est que la langue tibétaine soit pratiquée. Alors, c'est vrai qu'actuellement, le tibétain est pratiqué dans les écoles primaires. Il est aussi souvent pratiqué dans les écoles secondaires. Mais ce qui énerve Tashi Tsering, et d'ailleurs, il a gardé absolument sa liberté de parole. En 2007, il a adressé aux autorités une requête, mais qui est assez ferme, pour exiger que le tibétain soit davantage utilisé dans l'administration et dans l'enseignement supérieur. Donc, il se rend bien compte que le tibétain, est, quoi qu'on en dise, le tibétain n'est pas du tout menacé d'extinction, mais il voudrait qu'il soit davantage encore pratiqué. Mais évidemment, ça pose un énorme problème, à savoir que les Tibétains sont à tout casser, ils sont 6 millions... face à 1,3 milliard de Chinois. Donc c'est vrai que ça reste une langue qui est minoritaire, mais elle est défendue. Et il y a, dans le monde, il y a beaucoup de langues minoritaires qui meurent. Chaque mois, il y a des langues minoritaires qui meurent. Mais le tibétain n'est absolument pas menacé. Et absolument pas, quoi qu'on en dise ici. Il y a plusieurs dizaines de revues littéraires qui se publie en tibétain, au Tibet.
C'est dans la vie quotidienne, en fait, que si on l'utilise de moins en moins...
Non, elle est utilisée... Non, écoutez, à l'école primaire, elle est utilisée. Donc, c'est le langage courant de toutes les gens. Mais c'est vrai que pour accéder à des postes supérieure. C'est vrai que il y a intérêt, il y a plus qu'intérêt à connaître le chinois, même parfois l'anglais aussi. Donc c'est vrai qu'au départ, mais c'est la faute à personne. C'est vrai qu'au départ, les Tibétains sont un peu en état d'infériorité par rapport aux Han qui, plus naturellement, pratiquent leur langue. Ça,
c'est ce qui permet de dire que ce sont les Chinois qui provoquent cette situation, ce qui est quand même pas complètement faux.
Mais c'est-à-dire que si mais les Chinois, la Chine, c'est un immense
c'est
ensemble. C'est vrai. Bon, et la chance des Tibétains, c'est que c'est une minorité, mais une minorité importante. Ils sont 6 millions et ils ont une langue écrite. Alors que dans le reste de la Chine, sur les 55 ethnies, il y en a, je ne sais pas, je n'ai pas fait le détail, mais il y en a pas mal qui pratiquent aussi, qui ont aussi une langue, mais qui n'est pas une langue écrite. Donc, ces langues-là sont beaucoup plus menacées que le tibétain ne l'est.
Bon, donc nous n'avons pas l'impression, pour revenir au tout début de notre entretien, qu'il y aurait un génocide culturel.
Mais non, ça c'est vraiment, c'est une fable, c'est une contre-vérité. Je ne comprends pas comment on peut continuer à la seriner de site en site en recopiant des choses qui n'existent pas. Enfin, à Xining, la capitale du Qinghai, il y a un musée merveilleux, moderne, consacré uniquement à la médecine tibétaine. Mm-hmm. On trouverait dans le monde, mais des centaines de minorités qui pleureraient pour être victimes d'un tel génocide culturel. Hein? Bon, vous savez, mais c'est vrai.
Vous affirmez fortement.
Mais je crois que c'est vrai. Je ne suis pas ici, je suis pas le défenseur de la Chine, et je reconnais qu'il y a beaucoup de problèmes, et tout est loin d'être tout en blanc, tout en noir. Mais dire qu'il y a un génocide culturel, là, c'est vraiment... Il suffit de se promener de voir... Mais encore une fois, l'omniprésence des moines. Ils sont partout présents. L'opulence des monastères, certains sont reconstruits, d'autres sont embellis.
Ben alors justement, à propos des monastères, la dernière question pour clore cet entretien, c'est qu'aujourd'hui, ces fameuses immolations de moines dont on parle pas plus tard qu'hier dans le monde, et pas que des moines d'ailleurs, il y a des laïcs qui s'immolent aussi. Alors, on peut se poser la question, pourquoi?
Oui, ça évidemment.
Et si les choses allaient si bien...
Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de problème, hein.
Voilà.
Ça c'est certain. Mais je crois que, et je ne veux pas du tout minimiser ce drame des immolations, mais je crois qu'il ne faut pas leur accorder une importance plus grande qu'elles n'en ont, à savoir que les immolations ont lieu dans un tout petit périmètre du monastère de Kirti dans la préfecture d'Aba, dans le nord-ouest de Sichuan, et... ailleurs, globalement, la situation ne se passe pas si mal. Bon, nous sommes allés au Qinghai, nous avons pu voir et photographier plusieurs monastères où était où le portrait du Dalai Lama était affiché, parce que là-bas, les responsables locaux savaient que ces monastères-là n'étaient pas des foyers de rébellion et d'indépendance. Ce que les Chinois ne peuvent pas tolérer, c'est les prétentions indépendantistes. Et alors, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a paru récemment de deux Américains. Il s'appelle Hans Han et un autre Christopher Peake, qui ont fait une enquête sur toutes les émeutes qui se sont propagées au printemps 2008 et qui montrent de manière tout à fait irréfutable que les foyers de rébellion correspondent au nombre des moines dans le périmètre. Donc ça veut dire que plusieurs monastères sont des facteurs de rébellion. Et d'ailleurs, vous savez, ces immolations, elles sont pas toujours bien vues par d'autres responsables religieux tibétains. qui vivent sur place. Autre chose est de Dharamsala ou l'extérieur, par exemple, de dire oh, nous saluons le courage de ceux qui ont osé. Vous savez, Brassens disait mourir pour des idées, d'accord, mais demeure lente. Les Saint-Jean bouche d'or qui crient aux martyrs, le plus souvent d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Ça coûte rien de loin à essayer de faire miroiter une indépendance qui n'arrivera jamais. Et c'est ça justement le problème, c'est que les Chinois sont résolument opposés à toute manifestation d'indépendance. La répression chinoise, je veux bien croire qu'elle est disproportionnée, elle est beaucoup trop sévère. Les cours de rééducation sont certainement ne sont pas des modèles de pédagogie, certainement pas. Mais les Chinois n'en veulent pas à la religion. C'est tellement vrai que tout récemment, les autorités ont décidé d'accorder une pension de survie modeste mais réelle aux moines retraités. Donc, en gros, la situation est loin d'être si critique qu'elle ne le paraît. Maintenant, c'est vrai, il reste des problèmes, et je crois que les Chinois devraient, je dirais, réagir avec plus de psychologie. Mais en tout cas, globalement... on peut dire que la situation est loin d'être aussi catastrophique qu'elle n'apparaît ici.
Bon, bien, en tout cas, le débat reste ouvert.
Le débat reste ouvert.
André Lacroix, merci. Je rappelle le livre que vous avez traduit, « Mon combat pour un Tibet moderne » de Tashi Tsering, Melvin Goldstein et William Zibenchou, paru aux éditions Colias.